Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un aliment très consommé dans le milieu de l'endurance, mais autant apprécié pour sa qualité que détesté pour son goût. C'est la fameuse spiruline. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Nous avons décidé, dans tous les épisodes, de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive et aujourd'hui, d'un invité qui va nous parler de ce fameux produit, la spiruline. Quand j'ai commencé à courir, à chercher des conseils, je suis rapidement tombé sur la spiruline. Combien de coureurs m'ont dit qu'ils en prenaient une cure pendant l'hiver, de toute l'année? Mais combien m'ont dit qu'ils aiment vraiment le goût? Je crois pas un seul, jusqu'à cette discussion avec Hervé Geffroy. Lui, il trouve que la spiruline a bon goût, enfin la sienne, car Hervé est spirulinier. Autrement dit, dans sa ferme aquacole, il cultive ou élève, je ne sais pas quel mot utiliser, de la spiruline. Car vous allez découvrir, la spiruline est à mi-chemin entre le monde animal et végétal. Ainsi, Hervé m'a expliqué exactement ce qu'est cet aliment qui est considéré comme le plus ancien du monde. Vous saurez comment elle est produite, tous ses bénéfices, comment l'utiliser. Hervé a aussi partagé ses recettes, des conseils importants pour profiter des bénéfices. Vous découvrirez aussi le parcours de vie d'Hervé et sa passion pour ce produit. Et puis, vous découvrirez que la spiruline n'a pas forcément ce goût, cette odeur de petite granulée là, pour les poissons rouges. Autant vous le dire, après avoir discuté avec lui, j'ai compris que le pot que j'avais dans mon placard n'est probablement pas de très très bonne qualité. D'ailleurs, Hervé nous propose une astuce pour savoir si votre spiruline, celle que vous avez dans votre placard là maintenant, est de bonne qualité ou pas. Et n'hésitez pas à venir nous dire sur le compte Instagram du podcast, @podcastsportnutrition, si vous consommez de la spiruline et comment. J'attends vos recettes. Et maintenant, je vous laisse écouter ma discussion avec Hervé. Allez, c'est parti. Bonjour Hervé.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va. Pleine forme.
Pleine forme? Ah, ça tombe bien. De toute façon, aujourd'hui, on va parler de forme. On va parler de ce qui nous met en forme.
Ouais. De spiruline, je pense.
oui, mais aujourd'hui, attention, un grand sujet chez les coureurs, chez les sportifs. La spiruline, qu'est-ce que c'est que la spiruline? Qu'est-ce qu'on fait quand on est spirulunier? J'arrive pas à le dire. Comment tout ça fonctionne, etc. On va essayer de rentrer dans le détail, mais d'abord, je te laisse te présenter en quelques petits mots.
Bon, moi c'est Hervé Geffroy. Donc en fait, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Spiruline d'Armor il y a 2 ans. J'ai d'abord monté les bâtiments, une grosse partie par moi-même, et ensuite après les serres et puis une conduite de culture et production au fur et à mesure on s'y est fait, quoi. Voilà. Moi, je venais de la menuiserie industrielle avant, un métier qui n'avait rien à voir. Mais en fait, passionné de course à pied, j'ai découvert la spiruline. Et après, j'avais fait mon métier, c'était dans la gestion de production, et je me suis intéressé à la production de spiruline.
D'accord. C'est-à-dire qu'avant, en fait, tu faisais quoi? Des fenêtres, comme dans nos maisons, des trucs comme ça, là?
Tout à fait. Des fenêtres alu. Alors moi, j'étais spécialisé menuisier alu. Donc voilà. Avant, j'avais fait autrement du vitrage. J'étais plutôt dans le BTP, quoi.
D'accord. Oui, alors c'est vrai que ça change de tout au tout. On parlera de comment la spiruline est cultivée, qu'est-ce que c'est, etc. Parce que je pense en fait que tous ceux qui courent, tous ceux qui font du sport, on leur a un jour dit « prends la spiruline ».
Ouais.
À peu près, je pense qu'il y a eu ce truc-là. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est le parcours. C'est-à-dire, c'est comment tu passes de chargé de production, gestion de production dans la menuiserie et autres, et à devenir spirulinier en fait. C'est ce pivot, là, ce virage-là.
Ouais, c'est particulier. J'ai 45 ans et j'étais dans la quarantaine, on va dire. Derrière, je me cherchais un peu. Je changeais de métier tous les 2 ou 3 ans et je devais avoir un certain ennui. Je devais pas être à ma place, on va dire. J'avais fait des études en biologie. Avec laquelle je m'étais jamais servi, donc j'avais poussé quand même, j'avais fait un bac plus 4 en biologie, et puis après j'avais fait gestion de production, un bac plus 5. C'est cette dernière année qui m'avait servi pour mes emplois. La biologie, c'était quand même une passion que j'avais un petit peu laissée de côté. J'ai eu, c'est un tout, j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai eu une année blanche les gens du club s'en souviendront. Donc je fais partie d'un club qui s'appelle le TLA, le Trégulangueux Athlétisme, et j'ai eu une année blanche complète. Ça a commencé par une fracture, et puis après j'ai eu des tendinites à répétition, et je revenais pas, quoi. Chaque fois que je revenais dans le groupe, courir le dimanche avec mes anciens et mes collègues, bah je me refaisais une blessure. Et c'est de là que j'ai cherché sur Internet à savoir s'il n'y a pas des choses qui pouvaient m'aider. Et je suis tombé notamment sur notre ami Kylian Jornet ou Jean-François Daen qui prennent de la spiruline. De là, avec mon autre formation, je dirais de gestion de production, je me suis intéressé un petit peu à la production de spiruline. J'ai commencé à en consommer aussi. Mes soucis, peu à peu, je revenais. Je me sentais de mieux en mieux à courir. Un peu comme toi, quand tu vas courir le dimanche, je recommençais à pouvoir faire une à deux fois par semaine au départ, puis trois fois, et revenir un petit peu dans le match, on va dire. Voilà un peu comment je suis arrivé à la spiruline.
D'accord. Il faut le dire, hein, parce que dans ton pédigré sportif, tu as une 6000D notamment.
Ouais. j'ai accompagné un bon collègue qui devait faire son jubilé sur la 6000D, qui a 70 ans, Jean-Luc, l'hôtelier, pour pas le citer. Et j'avais décidé de l'accompagner. Ça s'est fait. Ça s'est bien passé d'ailleurs. 68 km, ouais, 34 en ascension, 34 en descente.
Oui, c'est un bon format, hein. Ça monte, ça descend, puis voilà. C'est bizarre comme la course à pied de partir, de faire autant de montées, autant de descentes pour arriver au même endroit, mais bon. On peut en penser ce qu'on veut, on est quand même bizarre des fois. Sur la spiruline, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est vrai que tu dis que finalement ça t'a aidé à résoudre tes problèmes de tendinite, etc.
Ouais, complètement. En fait, dans la spiruline, il y a une des vertus de la spiruline, c'est tout ce qui est minéraux. En fait, elle contient tous les oligo-éléments. Et lorsque tu fais du sport, on va dire au moins deux fois par semaine, voire trois fois, si tu pousses un petit peu, souvent tu fais des carences, notamment en fer, hein, qui est l'une des carences principales. Et autrement, tu fais souvent des carences, tu peux faire des carences en magnésium, phosphore, tout ce qui est oligo. Et quand tu as pu ces éléments-là, tu es plus sujet à des problèmes musculaires, tendineux. Il faut essayer d'avoir un stock d'oligo-éléments. On a des gens qui font du Tour de France, pour pas le citer, Julien Simon, ils jouent sur la diététique, sur la nutrition, pour essayer de limiter toutes ces carences, parce que quand tu fais du sport vraiment à l'extrême, eux c'est vraiment à l'extrême, tu as forcément des carences. Et moi, je pense rétrospectivement que j'avais deux choses. Je m'entraînais, je viens du foot aussi, hein, donc je m'entraînais un petit peu comme un bourrin, on va dire. Et autrement, en termes de nutrition, je faisais pas gaffe. Et puis derrière, je devais peut-être traîner quelques carences, quoi. En tout cas, le fait de prendre un spiruline m'a permis de me remettre sur les rails, en tout cas.
Non, mais c'est intéressant parce que souvent, la spiruline, on le voit comme étant un peu le complément qui va permettre, certains pensent que ça va leur permettre de courir plus vite, d'être plus résistant. Qu'est-ce qu'on dit, plus résistant à l'endurance souvent?
Ouais. Alors en fait, ouais, tu as l'autre vertu de la spiruline, c'est la phycocyanine, qui est un puissant antioxydant et qui permet en fait de faire des efforts répétés et longs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu absorbes de la spiruline, tu as la phycocyanine, qui est ce puissant antioxydant, qui est unique à la spiruline, puisque cette phycocyanine, tu la retrouves pas que dans la spiruline. Et cette phycocyanine te permet de retarder l'acide lactique dans tes muscles, et donc d'aller plus loin, d'aller plus fort, plus loin, quoi. Mais c'est vrai que c'est la principale vertu connue, parce qu'en fait, souvent c'est des cadors qui parlent de la spiruline, mais pour monsieur tout le monde, c'est assez intéressant aussi. Ouais, c'est très intéressant.
Oui, alors le problème en fait, c'est que souvent quand je pose la question aux gens, ils me disent oui, moi je prends de la spiruline, etc. Mais en fait, on a du mal à mesurer vraiment l'effet en fait de cette histoire-là.
Oui. Ouais, c'est un peu vrai aussi. En fait, souvent, lorsque tu prends de la spiruline, ça a un côté effectivement dopant. Tu te sens bien, C'est surtout aussi au départ. Mais en fait, quand tu fais la pratique de sport, c'est pour ça que les sportifs, c'est les sportifs qui en parlent le mieux. Tu t'aperçois qu'en fait, tu peux répéter les efforts. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire une sortie le lundi et tu n'auras pas trop de soucis. Bon, sauf si tu as fait vraiment la grosse sortie. Enfin, je ne parle pas de la sortie du dimanche, mais si tu as fait une sortie le lundi ou le mardi, tu peux répéter, tu peux retourner. Si tu as fait, on va dire, 15-20 km, tu peux répéter ça le mercredi sans problème. Et tu vas pas avoir de difficultés. Donc en fait, quand tu prépares quelque chose, souvent, c'est pour ça que c'est connu aussi chez les sportifs, c'est que quand tu prépares quelque chose, la spiruline t'aide énormément, quoi.
Oui, alors là, tu sais, tous ceux qui sont en train de préparer un marathon, un trail ou je ne sais pas quoi, sont en train de se dire, waouh, il faut que je prenne de la spiruline, etc. Et au bout de combien de temps ça marche?
Ah, ça marche rapidement. En fait, le fait d'ingérer la spiruline et notamment la phycocyanine, qui bon, au départ il faut faire attention aussi avec la phycocyanine, puisque au départ quand tu vas prendre ta spiruline, on te préconise de prendre 1 gramme ou 2 grammes, puis 3 grammes. Pareil, si tu prépares quelque chose et que tu fais 3-4 fois par semaine un entraînement, tu peux aller facilement jusqu'à 6 voire 10 grammes. Bah, pour pas les nommer, les Thibaut Guernalec, les gens qui font du vélo, ils vont jusqu'à 10 grammes. Parce qu'en fait, ils en ont besoin. L'autre chose qui est importante pour eux, c'est que souvent, ils sont proches de l'anémie parce qu'en fait, ils renouvellent leur stock de globules. Et le fer. Donc les globules rouges sont faits à partir d'un noyau de fer. Donc si tu n'as pas de stock suffisamment important en fer, tu régénères pas ton stock d'hémoglobine et tu stagnes dans ta progression. Ça aussi c'est un des effets de la spiruline. Et on parle de la spiruline au niveau sportif aujourd'hui, mais dans mes clients, j'ai souvent des clientes. Puisque en fait la carence en fer c'est la carence numéro un chez les femmes. Donc mes clients c'est vraiment les sportifs et les dames.
Oui,
Je sais pas
alors
si j'ai répondu à ta question, par contre.
il y a quand même un problème avec la spiruline, c'est le goût quoi.
Ouais, alors le goût. Bah souvent nous, bah quand tu viens chez Spiruline d'Armor, on te fait goûter la spiruline parce que tu as 80% de la spiruline qui est importée de Chine ou d'Amérique. Et ces spirulines-là n'ont rien à voir avec la spiruline que l'on peut cultiver. Nous, on prend soin de notre spiruline, c'est-à-dire qu'on vient sécher à basse température. Et ça fait une grosse différence puisqu'on a des taux de phycocyanine, puisqu'on les a mesurés, qu'ils sont proches de 21-22%. Alors que ce que tu trouves dans le commerce habituel, c'est plutôt chinois et tu vas plus être à 5-7%. Donc tu vois bien par rapport à ce que je t'ai dit que c'est pas la même chose. Et le fait de chauffer à haute température. Souvent, c'est des spirulines qui sont séchées par goutte d'aspersion, par atomisation, qu'on appelle ça, c'est-à-dire comme les poudres de lait infantile. Et donc, en fait, tu as des gouttes de milieu de spiruline qui tombent et un spray à 130 degrés qui vient sécher tout ça et qui fait de la poudre. Mais en fait, lorsque tu fais ça, la spiruline, c'est un micro-organisme, c'est une cyanobactérie pour être plus précis. Donc, tu as des membranes qu'on appelle cytoplasmiques, donc qui sont différentes des membranes cellulosiques au niveau des plantes. Et les membranes cytoplasmiques, c'est très léger, c'est comme nous, c'est comme si tu peux la percer avec une aiguille, enfin, c'est une structure qui est très fragile. Donc si tu mets une grosse température de 130 degrés sur ta spiruline, ben tu perds tout ce qui est vitamine, tu perds les oligo-éléments, tu perds la phycocyanine. Bon, il va te rester un petit peu de protéines, mais tu dénatures beaucoup de choses, quoi.
Oui, ben voilà. Alors je comprends mieux. Et d'ailleurs, tiens, tu fais bien de dire le mot protéine, parce que souvent,
Oui.
l'une des vertus de la spiruline, et quand tu cherches spiruline, on dit que c'est un concentré de protéines.
Tout à fait. Alors chez nous, il y a 66% de protéines. Alors souvent, c'est entre 50 et 70. Bon, après, moi, j'en parle très peu. Tu es déçu, Bertrand. J'en parle très peu parce qu'en fait, si tu as un régime alimentaire assez varié, je dirais qu'en fait, en Europe, en France, on n'a pas trop de problèmes de carence en protéines. Ça arrive très rarement. Par contre, ça peut être intéressant pour des gens qui cherchent à faire quelque chose de plutôt de la muscu ou prendre musculairement, ça peut être intéressant dans ce cas-là, puisque en fait tu es 60 sur 66% de protéines, tu n'as quasiment pas de graisse puisque on est entre l'animal et le végétal. Dans la spiruline, c'est une cyanobactérie, donc c'est entre l'animal et le végétal, donc t'as pas quasiment pas de graisse et de lipides, donc ça peut être intéressant pour vraiment sécher, on va dire, chez les gens qui font de la gonflate un peu.
Ouais, de l'autre côté, je vais te dire un truc, c'est que la spiruline comme source de protéines, c'est un truc que j'ai jamais vraiment trop considéré.
Non.
Parce que, en fait, moi, avec mes 80 kilos, il faudrait que j'en prenne pas loin de, quoi, 250 grammes de spiruline par jour.
Ouais, voilà, bah, c'est pour ça que, tu vois, tu as compris de par toi-même, en fait, enfin, on peut te parler que, effectivement, c'est une bonne source de protéines. Alors, ça a un côté intéressant quand même. Je vais, pour souligner le côté intéressant, c'est qu'en fait, quand on cultive de la spiruline, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un rendement protéique qui est supérieur à n'importe quelle plante. C'est pour ça que l'UNESCO dit qu'en fait la spiruline est l'aliment du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait elle est très peu demandeuse en ce qui est nourriture, on va dire. Le CO2, elle s'occupe tout seul de prendre son CO2. L'azote, on a un petit apport d'azote. Les oligo-éléments, c'est du sel marin. Donc en fait, on se retrouve avec une spiruline qui est capable de croître avec très peu de choses. Donc on se retrouve, quand on fait des calculs, à dire qu'en fait, pour faire une protéine de spiruline, il faut 1250 fois moins d'eau que pour faire une protéine de viande. Donc, de ce côté-là, ça peut être intéressant. Moi, après, moi, je suis pas quelqu'un qui... Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et donc, le réchauffement climatique, effectivement, il est là. C'est clair, maintenant, on va pas être alarmiste non plus. Actuellement, bon, on peut penser à la spiruline si vraiment tout va mal. Mais autrement, non... En termes de protéines, j'en parle très peu à mes clients.
Oui, surtout que je pense hein, que ça revient pour ceux qui font de la muscu, etc. Le gramme, le coût du gramme de protéines revient très cher en fait. Ouais. Quel que ouais. soit le fournisseur, même sur de la chinoise, ouais. je sais pas quoi, parce que la spiruline, c'est quand même pas un produit qui est donné. Je veux dire, si on compare à un kilo de poulet ou des choses comme ça, le kilo de spiruline est quand même beaucoup plus élevé, quoi.
On est bien d'accord. Par contre, tu vois, à contrario, j'ai des gens qui font de la muscu aussi et qui viennent prendre de la spiruline parce que souvent ils se retrouvent à prendre des produits et ils ne savent pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a une branche de personnes qui font de la muscu qui viennent me prendre de la spiruline directement, comme puisqu'ils préfèrent faire peut-être un peu de muscu de manière naturelle, on va dire. voilà.
Non, mais c'est exactement le principe après du complément alimentaire finalement. C'est-à-dire que tu peux pas dire je vais m'alimenter à 100% de spiruline.
Non.
D'ailleurs, parce que tout à l'heure tu disais, bon, on peut prendre 6, 8 grammes, il faut se méfier, etc. Et il faut le dire, hein, trop de spiruline, ça se digère pas si facilement que ça quand même. Hein.
Alors, c'est avec la fameuse spiruline que je te dis. En fait, à la spiruline, pour te donner l'idée par rapport à des gens qui sont anémiés, souvent on va leur donner de la ferritine, on va leur donner des choses qui, eux, effectivement, tu vas avoir des ballonnements, des choses comme ça. Quand tu prends la spiruline par rapport à des problèmes d'anémie, souvent, ça va être l'inverse, justement, te permettre d'une bonne digestion. Maintenant, je te parle de cas de gens qui vont prendre 3, 4 grammes. Si tu fais du sport, effectivement, que tu fais du sport, et sport costaud, on va dire, tu vas prendre plus 10 grammes, 5, voire 6 ou 10 grammes. Là, effectivement, tu peux rencontrer de temps en temps, c'est rare, des petits soucis de ballonnement. Ça va être vraiment un ballonnement, je n'ai pas besoin de faire de dessin, ça va être réellement ça. Autrement, tu n'as pas trop, justement, elle permet même normalement une meilleure assimilation. Donc, pas forcément. Après, je te dis, moi, je parle de ma spiruline.
Ouais. D'ailleurs, alors attends, t'as dit un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est mi-animal, mi-végétal. Alors,
ouais,
c'est un point qui est intéressant parce que on va dire vraiment ce que c'est que la spiruline, finalement.
Oui.
Et ça permettra de dire comment tu cultives la spiruline.
Ouais. Alors, la spiruline, c'est un micro-organisme, une cyanobactérie. Donc, cyan bleu et bactérie. Elle est entre l'animal et le végétal. Elle est côté animal, côté bactérie, c'est-à-dire qu'une cellule fait deux cellules, puis deux cellules font quatre cellules. C'est un peu comme toi quand tu te coupes. En fait, tu as une multiplication cellulaire. Et donc, ça va être plutôt le côté animal. Et autrement, le côté végétal, c'est-à-dire qu'en fait, elle est capable de photosynthétiser et de prendre le CO2 pour en fait respirer et croître. Et derrière, en fait, c'est alors, certains chercheurs, comme elle a 3,5 milliards d'années, qu'elle vit dans les cratères météorites et qu'elle vit dans les cratères volcaniques, se demandent si c'est pas le premier être vivant sur Terre. Si la spiruline et ses copines, les algues bleues, n'avaient pas été sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, tu n'aurais pas la couche d'ozone et tu n'aurais pas d'oxygène. Il faut le savoir.
Ah bah, donc, tout d'un coup, fait, là, on vient de partir dans des considérations tout autres. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, c'est vrai qu'on la voit partout, on la voit en poudre, on la voit en paillettes, on la voit en cacheton, on la voit en plein de choses, etc. Mais la plante elle-même, cette bactérie finalement, parce que c'est sous serre, donc c'est dans de l'eau que ça s'est cultivé.
Oui, oui. En fait, nous, pour reproduire, comme c'est un micro-organisme tropical, pour reproduire la chaleur, on cultive ça en bassin sous serre. La serre nous permet de réchauffer l'eau. La spiruline va commencer à croître à 20 degrés. Son optimum c'est 37 degrés, c'est bizarre, c'est comme nous. Et autrement elle va mourir si en fait notre serre ne s'ouvre pas et que l'eau monte à 41-42 degrés, c'est un peu comme nous aussi. C'est ce qui fait dire qu'en fait on est peut-être lié avec cette spiruline. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des thésards qui cherchent réellement à savoir si c'est pas la première forme de vie sur Terre. Et le fait qu'elle croît aussi dans les cratères de météorites. Et donc nous, on vient, on apporte à la spiruline, elle vit dans un milieu qui est très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, elle vit dans une eau qu'on appelle saumâtre. Donc c'est 14 grammes par litre de sel, donc à comparer avec 0 grammes par litre d'eau douce, et autrement 36 grammes par litre en général quand tu es à la Manche ou à l'Atlantique dans l'eau de mer. C'est une eau particulière, c'est un milieu de vie qui permet uniquement à la spiruline de croître. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas ensemencer tes bassins, avant de semencer tes bassins, il n'y a rien qui pousse dans l'eau puisque l'eau est vraiment particulière. Le fait d'avoir une salinité particulière et autrement un pH donc qui est basique. Et c'est ça qui fait qu'aussi, c'est pour ça que je te parlais en termes de digestibilité, ça peut être intéressant puisque c'est un aliment basique. Donc on a un pH qui est entre 9,5 et 10,5. Et pour avoir ce pH, on rajoute du bicarbonate de soude, ce qui est utilisé par les boulangers notamment, dans l'eau.
Ouais, moi j'en mets dans ma cuisine, du bicarbonate. Hein, c'est notre truc principal, c'est notre levure, on en fait plein de choses, du bicarbonate. Ouais, oui, donc c'est là où on voit que c'est un truc finalement très naturel. Mais j'ai envie de dire, tu donnes pas à manger?
Pour donner à manger, on a une source d'azote. Donc c'est la principale source qu'on donne. Donc on va donner une solution d'oligo-élément une fois que le sel, ou rajouter du sel si elle a mangé tous ces oligo-éléments. Derrière, sa source de carbone, donc le CO2, elle s'en occupe. On peut supplémenter ou pousser un peu la production avec du bicarbonate. Moi, j'en ressens pas les besoins, donc je la laisse pousser avec son CO2. Donc je viens ouvrir mes serres de temps en temps, si jamais il fait pas trop chaud et que la serre s'ouvre pas tout seul. Et en source d'azote, en fait, on vient envoyer une source d'azote. Donc avant, moi, j'étais pas en bio, alors je suis en conversion bio. Maintenant, je nourris avec des restes végétales. Alors qu'avant, je nourrissais avec du nitrate. Ça tombe bien, je suis en Bretagne.
Le nitrate, ça manque pas en Bretagne, vous êtes quoi? C'est intéressant quand même de voir ce truc-là. Donc, en fait, après, donc c'est sous serre, donc il faut de la lumière, mais pas trop, parce que tu as dit que si la serre elle monte à 41 degrés, tout meurt.
Oui, alors on a un autre, tu as raison de souligner ça, en fait on a un autre système, on a un système d'ombrage, comme effet 50 microns, si tu avais les rayons solaires qui arrivaient directement sur ce petit micro-organisme, et ben il pourrait exploser, on appelle ça la photolyse, c'est pour ça que je te dis que les cellules spirulines, il faut faire très attention, si tu veux avoir tous les nutriments, et ben il faut faire très attention à cette cellule-là, et si tu as donc une charge de photons qui arrive directement sur ta cellule de spiruline, tu peux avoir une lyse, une photolyse qu'on appelle ça, donc on a des filets d'ombrage aussi, ouais, j'ai oublié de dire ça, et autrement on a autre chose, un quatrième truc, c'est on a des agitateurs qui permettent que tout le bassin et toutes les spirulines puissent voir la lumière pour autant, parce que sans lumière de toute façon ils ne croient pas, donc et là j'ai fait à peu près le tour, pour récolter après C'est assez facile. Tu arrêtes tes agitateurs et derrière, tu vas avoir comme une crème de lait qui va se former sur les bassins. Et c'est cette crème de lait qu'on va venir prendre. Donc, on va venir avec un tube plastique ramener toute cette crème de lait vers une caisse. Et après, avec une corde flottante, on va venir englober cette spiruline et donc on va venir envoyer ça dans une caisse qui va après arriver dans mon atelier de production.
Ouais, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que donc à un moment il y a un filtrage, hein, c'est-à-dire qu'il faut enlever séparer la spiruline de
Le
l'eau,
milieu.
quoi, enfin grosso
Ouais,
modo.
ouais. Le milieu, comme je te disais, c'est pour ça qu'on dit que c'est très peu demandeur en eau. Une fois que tu as rempli tes bassins, tu ne fais que compenser l'évaporation. Donc tu fais un t'es en circuit fermé, c'est-à-dire que donc en production on a une récolteuse, c'est un tambour rotatif filtrant, et donc la spiruline reste sur le filtre et le milieu coule ensuite dans une bassine qui est en dessous de ma table de récolte et puis revient au bassin, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très peu demandeur en eau.
Ouais, c'est vraiment, tu vois, j'avais aucune idée de savoir comment c'était produit, à quoi ça ressemblait, etc. Parce que c'est vrai que nous, on voit des petites, de la forme à poudre, hein, souvent,
Ouais,
ou différents formats
c'est
comme
pas
ça.
mieux. C'est pas mieux.
On se demande, on sait pas finalement à quoi ça ressemble. Tu sais, un jour, je vais te donner une anecdote. Il y a des années, je faisais des cours à la fac. Et un jour, j'ai un étudiant qui me dit, oh, monsieur, j'ai un projet d'entreprise et tout, je vais cultiver de la spiruline. Je lui dis, mais comment vous voulez faire ça? Et il me dit, bon, j'ai mon père qui a une citerne d'eau et je vais la transformer en truc pour faire de la spiruline. Alors, il a jamais fait son projet, hein, son truc, mais je pense qu'il avait pas ces systèmes, tu sais, de luminosité, de je sais pas quoi, et ça faisait presque, tu sais, un truc qui planquait un peu comme on cultiverait certaines plantes interdites. Et j'avais aucune idée, en fait, vraiment de comment toutes les étapes qu'il y avait et à quoi ça ressemblait. Et je pense que tous ceux qui écoutent cet épisode, il y a personne qui le savait vraiment parce que on en voit partout, hein, franchement, on en voit même, alors des fois nature, des fois mélangé, des fois dans plein de choses, mais personne, enfin, je pense que personne n'a tenu de la spiruline, est-ce qu'on peut dire de la spiruline vivante dans les mains, quoi.
Alors justement, quand tu sèches à basse température comme moi, on dit que c'est une spiruline crue, puisque en fait, on est parti d'un, comme je te disais dans les bassins, on s'aperçoit qu'en fait à 41, 42 degrés, elle meurt. Donc nous, on sèche à basse température, on sèche à 40 degrés, ce qui permet de garder tous les nutriments, quoi. Et donc on va pas dire qu'elle est vivante tout à fait, mais elle est le plus proche qu'elle peut être. Et la spiruline aussi, j'ai pas expliqué, c'est parce qu'elle est en forme de spirale. Elle est en forme de spirale, et c'est d'où son nom. Et derrière, elle est capable de bouger un tout petit peu. Elle est un peu comme un ressort. Donc, c'est-à-dire, quand elle touche des parois, elle est capable de bouger. Donc, un peu comme un animal. Et autrement, dans son milieu naturel, j'ai oublié de dire ça, elle est en symbiose avec le flamant rose.
Ouais.
Donc, en fait, si tu vois des flamants roses, et que tu vois que le lac ou la surface d'eau est verte, tu es en droit de te poser la question s'il n'y a pas de la spiruline.
C'est vrai. Ah, parce que là où je vais en vacances l'été, je vois, il y a quelques fois des flamants roses, et c'est vrai que c'est vert, hein. Mais moi, tu sais, au début, je pensais que c'était de l'eau qui était un peu pourrie, parce que comme il y a un étang, etc. Mais maintenant que tu m'expliques, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, ce qui me semblait être de l'eau qui était pas terrible, tu vois, dans lequel j'aurais pas trempé un petit orteil. Ben, en fait, t'es en train de m'expliquer que finalement, c'est peut-être
Ça dépend,
la
ça
qualité de l'eau
dépend.
qu'il fallait, quoi.
Ça dépend où tu vas en vacances. Non mais si c'est la Camargue, oui, il y a depuis peu, ils ont trouvé un peu de spiruline en Camargue. Et si c'est plus loin, oui, tu peux la trouver en Inde, tu peux la trouver au Pérou, en fait, surtout la ceinture tropicale, le lac Tchad. D'ailleurs, c'est comme ça qu'en fait les Français ont retrouvé la spiruline. C'est-à-dire qu'en fait, bah, tu dois te rappeler, puisque tu es un peu dans mes âges aussi, We Are the World, l'Éthiopie, la Somalie, quand il y a eu des gros problèmes de famine, et ben en fait les ONG, notamment Médecins du Monde, se sont aperçus qu'il y avait une peuplade qui s'appelle les Kanandu, qui en fait, quand on leur donnait leur bol de riz, allait très bien. Alors que partout ailleurs, si tu ne donnes qu'un bol de riz aux gens, ça va pas beaucoup mieux. Sauf que cette peuplade-là, ça allait beaucoup mieux. C'est parce qu'en fait, ben, ils traînaient des filets sur le lac Tchad. ils consomment de la spiruline qu'ils appellent là-bas le dillet, qui est consommé sous forme de galette, parce que donc ils prennent cette boue-là avec les filets, et derrière, en fait, ils viennent faire des cuvettes directement le sable pour sécher la spiruline, et tu as des galettes de dillet. Et en prenant ce dillet et leur bol de riz, eh ben, tu as les enfants qui sont atteints de kwashiorkor, notamment, c'est une dépigmentation qui est due à des manques de minéraux, qui retrouvent leurs cheveux qui ne deviennent plus blancs, qui redeviennent noirs, leurs gros bidons qui disparaissent et qui, les enfants qui reviennent sur pied. C'est comme ça qu'on a redécouvert la spiruline, nous, Européens.
Ouais, non, mais c'est dingue, en fait, hein, ces trucs.
Ouais.
C'est vrai que quand tu. Enfin, la spiruline, la plupart des gens. Enfin, il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est la bouffe à poisson, ton truc.
Oui, oui.
C'est le cas ou pas?
Non, du tout, du tout. Et justement, c'est ce que bah, j'avais commencé à t'en parler, mais bien sûr, tu vois, je parle beaucoup, alors j'arrive à me perdre tout seul. Ben non, en fait, quand tu sèches à basse température, c'est un goût beaucoup plus végétal. Après, c'est le goût un peu umami que décrivent les Japonais. C'est-à-dire que quand je fais goûter ma spiruline, quand tu viens à la ferme, je leur demande aux gens, alors comment vous trouvez ça? Alors, ils sont pas capables de me dire si c'est sucré, acide ou si c'est salé, parce qu'en fait, ça a un goût, ça reste dans les dents, ça c'est sûr. Mais derrière, ça a pas franchement de goût. On peut pas le définir. C'est un goût un peu végétal, mais effectivement, pour revenir à ce que tu dis, souvent, on a l'impression que c'est un peu, comme tu dis, de la bouffe au poisson. Mais moi, ma spiruline, elle n'a pas cette odeur-là. Déjà, elle n'a pas l'odeur très forte. Souvent, les spirulines dont tu parles, là, c'est des spirulines oxydées. C'est vraiment séché haute température, oxydées, souvent en poudre. Donc, le fait de mettre en poudre aussi, ben, c'est un peu comme tous les aliments. Plus tu la transformes, ben, moins tu as de nutriments. Et bon, voilà, comme tu dis, a fortiori, comme tu l'expliques, ça a des fois une odeur assez forte. Ouais. Mais quand tu viens chez Spiruline d'Armor, tu te réconcilies avec la spiruline.
Ouais, bon, bah écoute, il va falloir que je fasse le voyage un jour. Mais oui. Depuis l'Auvergne, ça fait un poil loin. Mais bon,
ouais, ça fait un peu loin.
Bon, après, hein, on sait pas, hein, tu sais, des fois, hein, les chemins. Non, mais c'est intéressant, ces histoires-là, parce que c'est vrai que moi, j'en ai un pot de spiruline à la maison, là, que j'ai eu, que j'ai acheté dans un magasin bio, tu sais, qui était normalement sportif, alimentaire, etc. Moi, j'arrive pas à la torcher, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu sais, je regarde ce pot, je dis, pff, alors j'en ai pris pendant ma préparation marathon, j'en ai, hop, au bout d'un moment, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Et là, on va venir sur l'utilisation de la spiruline, parce que, Il faut rappeler quand même un truc de la spiruline, c'est que tu peux pas la mettre dans un gâteau que tu vas mettre au four et te dire voilà, je vais faire un gâteau au chocolat avec de la spiruline dedans, quoi.
Bah, t'as tout compris un petit peu. Bah oui, parce que en fait, moi, t'as bien compris que je prenais soin de la sécher à basse température. Donc effectivement, si tu la mets dans un four après, ouais, ça va être moyen. Par contre, la spiruline, nous, on la préconise un petit peu comme un aliment, puisque c'est un aliment. En fait, souvent, on nous demande une posologie. Alors effectivement, par conseil, on va te dire 1 gramme, puis 2 grammes, puis 3 grammes chez une personne normale. Et puis après, plus si tu es sportif, mais ça reste un aliment. En fait, tu peux pas te faire franchement du mal avec de la spiruline puisque tu es sur un aliment, donc pas un alicament où on peut a priori, je dirais que tu es sur un super aliment, mais c'est tout, donc tu peux pas te faire grand mal en ingérant la spiruline. Maintenant, pour les utilisations, nous en fait on voit ça plutôt comme un aliment, donc tu peux saupoudrer ça à midi sur tes tomates. Actuellement, c'est très facile, j'ai envie de dire, c'est assez facile de manger de la spiruline. Tu peux aller sur tes tomates, tu peux aller sur tes carottes râpées, sur tout ce qui est froid. Après, pareil, quand tu arrives en hiver, tu peux très bien la mettre dans ta soupe. Tu sers ta soupe, t'attends un petit peu, et puis derrière, en général, on mange pas sa soupe quand elle est à 60, 70 degrés, on la mange plutôt quand elle est à 40, quand elle commence à être un peu plus froide, et puis tu peux très bien gérer ta spiruline comme ça. Autrement, pour que ce soit plus simple, si en fait on prend la spiruline, non pas par cure, mais quasiment tout le temps, en général, les sportifs prennent ça avec leur flocon d'avoine le matin et un fromage frais. Quoi. Fromage frais, flocon d'avoine, spiruline. Et après, on varie les plaisirs avec soit une banane, soit des fruits rouges. Mais moi, j'ai tendance à l'ingérer comme ça. Ouais. Ou sinon, avec une compote le matin. Mais ce qui est important, c'est de se faire plaisir et trouver vraiment comment... soi-même, on aime l'ingérer, j'ai envie de dire.
Ouais, mais moi je la prenais dans du. Alors c'est vrai que je la prenais le matin dans mon porridge le matin, et mes petits flocons d'avoine, etc.
Ouais.
Je prenais. Alors des fois je fais des cocktails. Alors là je fais moins les cocktails, mais puisqu'on va rentrer dans le truc, mais des fois je prenais des trucs genre des graines de chia
Ouais.
gonflées dans du lait d'amande et je rajoutais un peu de spiruline dessus. Alors là, tu vois, c'est le cocktail des super aliments. Tu sais, tu te dis, alors
Ouais.
attends, je prends le super aliment qui nous vient de tel endroit, je prends le super aliment qui nous vient de tel endroit. Si avec ça, je suis pas un super coureur, tu vois, moi, le truc, hein, comme ça, en se disant, non mais attends,
Ouais.
ça va forcément marcher. Mais c'est, je pense que, bon, il y a une, j'en ai discuté avec plein de gens dans les clubs et tout. Je crois qu'il y a aussi le sentiment que ça nous aide à faire quelque chose. Des fois, on n'est pas sûr de savoir quoi, mais on sait que quand même la base de la spiruline, c'est qu'il y a quand même de vraies vertus dedans, quoi.
Oui, mais après, comme tu dis, faut trouver sa façon de le manger pour pas être gêné. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, dans la spiruline, tu as toutes les vitamines, sauf la C. Et la C, elle est importante pour bien assimiler le fer. Et le fer, je t'en ai parlé, si tu répètes beaucoup, souvent les efforts, attention, la première carence qui va arriver, ça va être souvent la carence en fer. Tu vas te sentir flagada, tu vas te sentir crevé, c'est l'anémie, quoi. Hein. Et derrière, en fait, même, j'ai envie de dire, des coureurs, pas forcément gros, gros coureurs, si t'as tendance à l'anémie, bah souvent, tu le sais pas trop, surtout chez les hommes, en fait, nous, on a souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, tu vas chez le médecin, nous, on ne nous préconise jamais un relevé de ferritine ou de fer. Par contre, les dames, elles, souvent, sont surveillées au niveau du fer. Mais pour te dire, en fait, ouais, ce qui est important aussi quand tu ingères donc ta spiruline, c'est de laisser passer du café ou du thé. Parce qu'en fait, si tu laisses passer du thé et du café, tout ce qui est complémentation en fer, tu vas passer un petit peu à côté, puisque c'est la théine et la caféine, et ben en fait empêche un peu au fer d'être assimilé, quoi.
Ouais, et ça, tu fais très très bien de le rappeler, parce
Ouais,
que
ouais.
il faut le dire, il y a plein de gens qui ne le savent pas, et c'est d'ailleurs un procès qu'on fait au thé souvent, tu sais.
Ouais.
Moi, j'ai vendu du thé avec ma femme pendant des années, et donc je sais le truc. On disait, ouais, mais moi, j'ai des carences en fer, je peux pas boire de thé, etc. J'ai même trouvé un jour un étudiant qui m'a dit que son médecin lui avait trouvé une carence en fer parce qu'il buvait trop de thé glacé, tu sais, donc.
Ouais.
Et donc, le conseil, c'est vrai, c'est de dire que le thé, il se boit pas comme ça, au repas, il se boit à distance des
À
repas.
distance, hein. Tout à
Et
fait.
c'est important, hein, de se dire, il y a un moment donné, et donc le café aussi, parce que la caféine et la théine sont les mêmes, c'est la même molécule, en fait, hein, voilà, on va tout préciser. Et c'est vrai que les mettre à distance, c'est quelque chose qui est important. Et en plus, je vais te dire un truc, c'est que souvent, les histoires de température, en plus, si on rajoute un petit peu les choses, on pourrait se dire que c'est mieux de la prendre en séparé sur un truc froid, plutôt que de se dire, je vais prendre ça, et puis derrière, je prends une tasse de thé, quoi.
Oui, ah oui, complètement. Complètement. Bah nous, on le signifie bien parce qu'en fait, c'est important. Et je te dis, le fer, c'est une des principales vertus. Et la deuxième vertu, c'est phycocyanine. En fait, tu as cinq vertus dans la spiruline. Tu as le fer en un. En deux, tu as la phycocyanine parce qu'en fait, c'est le puissant antioxydant. Bah, il est utilisé, tu le vois aussi en cosmétique. Tu arrives à avoir assez souvent de la spiruline qui est mise en masque chez les dames. Parce que c'est un puissant antioxydant, et donc derrière, en fait, une régénération cellulaire, biocellulaire, et donc en fait, on utilise ça pour faire des masques. Après, en troisième, tu as les oligoéléments, je t'en ai parlé, et en quatrième, les vitamines. Et puis en fait, la première, c'est les protéines, mais on en a parlé. Moi, honnêtement, je passe rapidement dessus.
Ouais, et tiens, en vitamine, je suis sur ton site, je vois A, B, D, E, K. C'est intéressant parce que
Ouais.
moi j'ai des problèmes de vitamine D, tu vois. Bah, tiens, ça donne une autre raison de prendre
Oui,
de la spiruline.
ouais.
Et je le dis aussi parce que pour l'anecdote, hein, je le donne, la phycocyanine, vous la trouvez aussi en seule, en pure. Ma femme, elle en prend tous les matins. Elle déteste la spiruline, ma femme. Mais la phycocyanine,
Ouais,
elle m'a fait
mais
goûter.
elle va changer, Bertrand, maintenant qu'on se connaît.
Ouais, bah écoute, alors tu sais, ça c'est un sacré gros défi, tu sais. Mais je pense en fait en plus, tu vois, parce que les cabinets, tu sais, les boîtes qui font des produits comme ça et tout, qui vendent de la phycocyanine séparée, disent aussi que bon, bah voilà, si vous aimez pas la spiruline, la phycocyanine, vous en prenez une cuillère. En plus, pour ma fille, on appelle ça le jus de schtroumpf, tu sais, on dit c'est bleu comme des schtroumpfs. Et donc, ceux qui aiment pas ça, ils vont se tourner vers la phycocyanine, certains, etc. Alors, les labos disent qu'il y a des vertus, je sais pas quoi. Enfin, moi, je rentre pas dans ce débat-là. Mais après, c'est vrai que la spiruline, elle a mauvaise presse pour ce que tu disais là, sur ce goût, cette odeur forte, etc. Moi, celle que j'ai à la maison, je te garantis. Et c'est là où je voulais te poser une question, c'est comment je peux savoir s'il a été oxydé ou pas? Est-ce que c'est marqué, est-ce qu'il y a une obligation sur l'emballage ou quelque chose?
Non, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on est sur des histoires d'équivalence. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as la spiruline chinoise, qu'elle est bio en Chine, elle va arriver en Europe et en France avec son label AB. Or, en fait, on sait tous très bien que déjà, il y a un souci avec ça parce que en Chine, tu n'as pas souvent d'eau potable et en fait, la spiruline a un pouvoir qu'on appelle chélatant, c'est-à-dire qu'en fait, elle capte tout ce qui est oligo et métaux et elle va aussi capter les métaux lourds, quoi. Donc, tu peux te retrouver très bien avec une spiruline qui va être bio, que tu vas avoir l'impression qu'il y aura un drapeau français parce qu'en fait, si en fait, tu viens l'emballer en France, tu as le droit de mettre le drapeau français ou le drapeau breton ou le drapeau de Clermont-Ferrand mais en fait et en plus toi tu auras l'impression d'avoir pris de la spiruline française mais l'oxydation en fait c'est réellement quand tu as la spiruline en poudre, j'ai presque envie de dire n'achète pas. Bon. Après, effectivement, tu peux venir chez moi et moi je peux te faire de la poudre, mais souvent moi je la vends en micro-paillettes ou en brindilles. Si tu l'as en brindilles, déjà, ça veut dire qu'en fait elle a été séchée à basse température. Donc déjà, tu auras moins ce phénomène d'oxydation et tu auras moins cette odeur. Tu auras une odeur plus sucrée, plus végétale, comme je te disais. Donc premier conseil, comme tu dis, ce serait déjà de prendre donc une spiruline et essayer de s'assurer qu'elle est vraiment française. J'insiste, hein, mais je suis un peu chauvin, mais j'insiste. Parce qu'en fait, on sèche à basse température, qu'on fait une culture écologiquement parlant qui n'est pas aberrante, c'est-à-dire qu'en fait, on garde nos milieux de culture le plus longtemps possible. Donc, c'est-à-dire on va pas changer l'eau continuellement. En Chine, en fait, ils font 15 jours avec leur bassin. Ils jettent, ils reprennent de haut, c'est pas la même chose quoi. Mais souvent aussi, alors quoi, pour te faire rire un petit peu aussi, effectivement, on a différentes spirulines. Effectivement, si vous trouvez de la spiruline qui est à 5-6 euros, ça va être sans doute de la spiruline chinoise, mais oui, effectivement, elle va être bien oxydée, elle va pas être terrible. Mais c'est comme ça quoi. Si vous arrivez plus sur des tarifs à 16, 17, 18 euros, les 100 grammes, là vous savez que vous êtes plutôt sur du français et que derrière vous allez avoir, ça va rien avoir non plus, puisque vous pouvez faire un test sur vos spirulines. Vous prenez votre spiruline, vous la mettez dans un verre d'eau. Si vous avez un bleu qui est ciel, qui on voit à travers, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de phycocyanine dedans. Par contre, si vous prenez une spiruline française, vous la mettez dans de l'eau, vous allez avoir un vert foncé, vous allez la chlorophylle et la phycocyanine qui vont être en même temps. Et derrière, vous allez vous dire, j'ai mis 22 ou 30%, puisque ça peut aller jusqu'à 30% de phycocyanine. Et là, ça va avoir des effets, quoi.
Ouais, tu sais, j'ai répondu à tes questions. Je vais aller chercher mon verre d'eau, je mets ma spiruline dedans, et je vais voir que ça va rester transparent, mon histoire.
Et tu vois, c'est super joli. Si tu ne remues pas, c'est super joli. Tu vas avoir du bleu et tu vas avoir comme un reflet rouge, rose rouge, et ça, c'est le bêta-carotène. Donc tu as 6 fois plus de bêta-carotène que dans des carottes. Donc tu vas voir ton côté un peu rose sur le dessus de ton verre.
Ouais, non, mais c'est fou hein, quand même. C'est vrai que c'est une plante. Enfin, tu dis c'est pas une plante. En plus, c'est un mélange en bactéries, etc. C'est
un micro-organisme.
Un organisme. Voilà. On ne sait pas comment le classifier. Hein. C'est un petit peu embêtant.
Non.
D'ailleurs, j'avais une petite blague à te poser, mais est-ce qu'un vegan peut manger de la spiruline?
Comment tu dis?
Est-ce qu'un vegan peut manger de la spiruline?
Ah bah oui, c'est conseillé, ouais, c'est conseillé. En fait, bah oui, quand tu es sur végétarien ou vegan, bah oui, effectivement, tu te retrouves souvent avec un problème d'anémie puisque tu n'ingères plus de ou quasiment plus de fer. Donc souvent, moi j'ai beaucoup de clients qui sont effectivement vegan ou végétariens qui viennent prendre de la spiruline pour se complémenter en fer. Ouais.
Ouais,
Ouais, c'est
donc eux, tu leur dis
important.
pas que c'est mi-animal, mi-végétal, tu leur dis que c'est juste végétal.
Non, ah ouais, alors, ouais. Ah, je t'avais pas vu
Ouais, je suis taquin, je suis taquin. Non, non, mais attends, parce que c'est un sujet, ça me fait rire en fait. Enfin, ça me fait rire parce que c'est, je pense que tout ce qui est aliments, les compléments, la vision des choses et tout, on a tous après des choses. Est-ce que je peux prendre, pas prendre, comment je fais, etc. Et
Ouais.
moi, je m'en amuse beaucoup parce que y a dans les discussions que j'ai souvent, il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai pris ça et tout. C'est, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça et tout. Mais en fait, comme tu le dis, c'est là que c'est intéressant en fait, c'est que les conditions de production, les conditions de consommation vont changer totalement les bénéfices ou pas du produit en fait.
Tout à fait, tout à fait. Tu suis bien ce que je te dis? Ouais, c'est ça, complètement. Bah en fait, ouais, si tu es sur. Et je te dis, ça concerne 80% de la spiruline qui est vendue en France. Hein. En fait, tu as le plus gros importateur, c'est la Chine, et le deuxième, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, c'est l'atomisation aussi, c'est pareil. Tu peux te retrouver. Tu as souvent des spiruline qui sont un peu ouais, limite quoi, limite. Nous après à la fin, moi je fais partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération française des spiruliniers, la FSF pour les citer, et c'est là que j'ai été me former et puis appris à cultiver la spiruline quoi. Et nous milite pour quelque chose, on la voit plutôt comme un aliment, c'est pour ça que je t'en parle comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on sait bien que pour avoir une bonne santé il faut manger de tout, plus tu manges varié ben mais mieux tu vas te porter, et la spiruline fait partie de ces aliments qui peuvent t'apporter des choses. Ouais. Mais la course, surtout vraiment sur la course à pied, moi j'ai même des clients où quand ils reviennent, je leur dis oh là, doucement, doucement, je les vois sur Facebook, tu sais, ils ont fait 3-4 sorties dans la semaine alors qu'ils couraient pas tant que ça avant. Et là, tu te dis bon, ouais, doucement, 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 un peu parce que là, il va y avoir des soucis derrière quoi.
Ah mais en fait on s'enflamme vite, hein. Dès qu'on a un petit produit comme ça, on se
C'est
sent
ça.
mieux, on s'enflamme,
C'est ça.
etc. Et
C'est
je crois
ça.
que c'est l'histoire de tous les coureurs en fait. Dès qu'on trouve une
Ouais.
solution qui nous permet de courir un peu plus, on s'enflamme avec ça.
Ouais.
Et donc c'est là que tout le monde, tu vois, là, à la fin de l'épisode, tout le monde est en train de se dire, bon, je vais acheter de la spiruline, mais comment je vais la manger? Et c'est là où on va donner deux, trois idées de recettes à un potentiel. T'as dit, bon, sur des tomates, au moment de la diffusion de l'épisode, au moment de l'enregistrement de l'épisode, il reste quelques tomates. En tout cas, on en trouve. Au moment de la diffusion, je sais pas trop. Donc, on va donner quelques idées qui peuvent marcher toute l'année. Donc, tu avais dit au petit déjeuner, tu avais dit dans de la
Ouais,
compote. On pourrait en mettre dans
compote,
quoi?
ça
Dans
marche
des,
bien.
je sais pas.
Smoothies.
T'as
Les
des idées?
smoothies. Ouais, en fait, tu dans les smoothies, ça peut être relativement intéressant. Tu peux faire des guacamoles aussi. Dans les trucs marrants aussi, comme en fait c'est hyper protéiné, tu peux essayer de monter une mayonnaise avec de la spiruline au lieu de l'œuf. Et derrière, en fait, tu te retrouves avec une mayonnaise martienne, on va dire. Après, tu peux retrouver, j'ai sur mon site internet, j'ai mis des recettes. Tu peux mettre faire de la mousse au chocolat. Tu peux faire alors avec le chocolat, en fait, la spiruline. Quand tu vas voir les cuisiniers, souvent ils te disent que ça, c'est un petit peu exhausteur de goût. Ça n'a pas franchement de goût, mais c'est exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu la mets avec le chocolat, ça le bonifie un peu. Ça bonifie un peu les aliments. Comme je te disais, Bertrand, il faut essayer d'aller trouver son petit producteur à côté de chez soi. Bon, trouver. Et derrière, en fait, ça va rien à voir avec la spiruline que beaucoup ont consommé, quoi.
Ouais, et alors tu sais les producteurs autour de chez moi, je vais regarder, mais je dois en avoir bien en Auvergne, mais
Oui,
on fait la pub
oui,
de la spiruline française depuis tout à l'heure. J'ai juste un petit clin d'œil pour un auditeur, et je pense à lui, il va tout de suite se reconnaître, mais parce que lui il est sponsorisé par de la spiruline suisse, et il faut le dire
Ah oui.
aussi, hein, c'est que en Suisse, il y a des gens, et j'ai regardé un petit peu, qui produisent aussi la spiruline de la même manière, parce que c'est pas lié à des conditions, faudrait pas des conditions de soleil, de particulières ou quoi que ce soit en fait.
Si, alors moi je suis en Bretagne, alors je vois déjà les vannes que tu vas faire, mais en fait on a un bon soleil. En fait, effectivement, c'est conditionné quand même un peu au soleil. Maintenant, si tu as trop de soleil, tu as bien compris aussi que ma serre s'ouvrait et que j'ai des collègues qui, dans le sud, luttent même contre le trop de soleil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si ça cogne sérieux, t'es dans le sud, je sais pas, Marseille, Nice, et que derrière, tu as une eau qui, le matin, est à 35 degrés, si tu te fais rien, si ta serre s'ouvre pas, ou si tu peux pas ouvrir ta serre parce que c'est pas une serre qui s'ouvre, tu luttes contre l'ensoleillement, et tu luttes pour pas perdre tes bassins, puisqu'à 42, c'est fini. Nous, en Bretagne, on a rarement ce problème-là. Et pareil, on a une autre chose, c'est que la phycocyanine, je te vois sourire, la phycocyanine, par contre, nous, on est intéressé en Bretagne, c'est qu'en fait, la phycocyanine, tu as un meilleur taux de phycocyanine quand tu as un bon taux d'eau, un bon taux d'ombrage. Donc nous, en Bretagne, souvent, on est champion de la phycocyanine aussi, parce qu'on a une alternance. Entre eux, alors mes collègues vont peut-être pas être contents, mais on a une alternance entre beau temps et mauvais temps, quoi. Nous, comme on dit chez les Bretons, on peut avoir 15 fois un temps différent dans la même journée.
Et tu as remarqué, je n'ai pas dit de mal de la Bretagne, parce que on est sur un podcast auvergnato-breton, donc je ne critique pas la Bretagne, hein, forcément. Mais c'est vrai, non, mais après, c'est vrai que on peut dire que je pense qu'il y a des endroits où c'est plus facile de la cultiver, parce que tout simplement, comme tu dis, il y a les histoires de température, etc. Hein, c'est aussi ça qui est intéressant. Et pendant que tu parlais, j'ai aussi cherché, j'ai bien de la spiruline en Auvergne, hein, il y a bien des spiruliniers en Auvergne aussi. C'est ce qui montre que la filière locale, si on voulait l'avoir, on pourrait l'avoir dans la spiruline. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Plutôt que d'aller dans des magasins bio, des fois, ou des supermarchés, j'ai envie de dire, où ils mettent un peu de tout et on ne sait pas d'où ça vient, ça vaut le coup d'aller voir son producteur local et de se dire, bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un en local qui est capable de m'expliquer aussi, de me montrer, finalement, comment ça marche. Parce que je suis sûr que la fédération des spiruliniers que vous avez envie aussi d'expliquer comment vous faites ça, là.
Tout à fait. Bah ce qui peut être intéressant aussi, Bertrand, c'est que effectivement quand tu te déplaces, bon au moins se déplacer une fois pour venir voir son petit producteur, et son petit producteur en général il n'a rien à cacher. Quand il n'y a rien à cacher dans une ferme, c'est que on est en complète transparence. On a beau être des petites structures, parce qu'en fait on est des micro-fermes un petit peu, hein, on se doit de respecter tout ce qui est légal, c'est-à-dire que moi je fais des analyses en microbiologiquement parlant. Donc savoir si en fait j'ai une flore totale qui est trop grande ou pas ou qui est dans la qui doit convenir à un certain taux. On regarde tout ce qui est méchanceté, pour pas la citer, là j'ai un petit trou là. Aide-moi un peu. En fait on regarde tout ce qui est bactérien, savoir si ça va. On regarde au niveau métaux lourds, puisque je te parlais de ça, puisque les spirulines chinoises, il y a eu notamment des soucis il y a 5-6 ans, parce qu'ils avaient des problèmes de cadmium. Donc nous, c'est tombé dans nos règles aussi, donc on respecte ces règles-là, donc on fait des analyses tout au long de l'année sur les métaux, et notamment les métaux lourds. Et autrement, on a une troisième analyse, les microcystines. En fait, comme on est sur des cyanobactéries, il peut y avoir des microcystines qui sont pas forcément franchement bonnes quand on les ingère. Et donc, on se doit respecter des taux aussi. Mais en fait, même si on est une petite structure, on porte attention à tout ça. Et si on a des analyses qui sont pas bonnes, on retire le lot de fabrication et on ne vend pas ça. Et on est sur un produit qui, justement, est bien bien certifié et bien bien on fait très très attention à ce qu'on fait, quoi, parce qu'on sait très bien que si il y a quelque chose qui ne va pas, on va tous en pâtir en France, quoi. Donc on fait très très attention à ça. La petite échelle n'est pas forcément un gage d'insécurité. Au contraire, j'ai envie de dire.
Voilà, mais écoute, c'était très intéressant, tu vois, de discuter de ce sujet là parce que c'est vrai que je disais, hein, on en a tous dans les placards, et puis il y a des mélanges et tout. Moi, j'ai un mélange à la maison que j'ai gagné sur une course, c'est spiruline et jus de betterave. Alors, on a eu un débat, j'aurais quelqu'un du club qui m'a dit ouais, moi j'en prends avant les courses, ça me booste, j'ai battu mes records grâce à ça et tout. Et on savait pas si c'était la spiruline ou le jus de betterave qui fonctionnait, parce que officiellement les deux fonctionnent. Hein, donc, mais en fait, ça fait partie des produits. Et moi, quand j'ai commencé à courir, c'est, je crois, hein, quelqu'un m'a dit oui, mais tu dois faire une cure de spiruline pendant l'hiver, etc. Alors, c'est là où tout à l'heure t'en as parlé, on en a pas reparlé. Tu dis, il y en a qui la consomment en cure et puis il y en a qui la consomment toute l'année. Est-ce qu'il y aurait une manière plus qu'une autre de la consommer?
En fait, non. C'est un peu selon chacun, j'ai envie de dire. Nous, on la préconise effectivement. Donc, comme je te disais, je vois beaucoup de dames. On la préconise actuellement, là, justement, en entrée d'automne. Et on la préconise souvent au printemps, quoi. Si on la fait sous forme de cure, c'est un mois, deux mois. Donc, c'est un sachet ou deux sachets. Parce qu'en fait, on est réellement sur de la micronutrition. C'est ça qui est difficile à comprendre quand je parlais du quash hardcore en Afrique et tout ça. C'est qu'en fait, on est vraiment sur de la micronutrition. Donc, si on veut que ça fasse effet, c'est pareil, lorsqu'on fait une cure ou lorsqu'on commence un sachet, c'est important d'aller jusqu'au bout, Bertrand. On est sur des micro-dosages. Donc en fait, si on fait, admettons, on va voir son producteur et derrière on commence une cure de spiruline, si on fait le lundi et on dit oh, je reverrai ça le vendredi parce que je courrai le vendredi, c'est pas là qu'on va avoir les meilleurs effets. Il faut essayer de prendre ces 3 grammes tous les jours. Et après on va voir les effets au fur et à mesure. Et pour revenir sur la course à pied, parce que c'est un peu notre sujet aussi, tu as deux versions un peu sur la spiruline. La spiruline va te permettre une bonne récup par rapport aux oligo-éléments, comme je te disais, le fer, magnésium, phosphore, c'est ce qui va permettre en fait de bien te régénérer musculairement. Mais elle a aussi des vertus, comme je te disais, pendant ta course, puisqu'elle va diminuer, elle va réguler plus ta glycémie. Il y a des vertus pour le cholestérol, il y a des vertus pour le triglycéride qui se sont avérées depuis peu. Et derrière, en fait, tu vas avoir l'acide lactique qui va arriver, bien sûr, hein, force de l'effort, mais beaucoup plus tardivement, quoi. Donc pendant ta course, ça va être intéressant aussi, quoi.
Eh bien, écoute, ça fait un sacré tour de la spiruline. je crois que dans mon placard, j'ai plus qu'à rajouter un peu de spiruline de bonne qualité, hein, pas celle qui sent le poisson, mort et compagnie. Je vais remettre le nez au-dessus et puis je vais essayer de voir un peu d'où elle vient et suivre un peu les conseils. Mais déjà, c'est vrai que comme tu dis, elle est en poudre, la mienne. Donc déjà, comme tu disais, ça, faut peut-être se méfier de ça, etc. Ou de regarder au moins qui l'a fait. Je pense que c'était intéressant, tu vois, de vraiment parler de ce sujet-là parce que on comprend qu'en fait, c'est un organisme qui est plus compliqué que ce qu'il y paraît, hein, quand on le voit comme ça, on peut s'en moquer un petit peu. Nos amis qui comprennent pas pourquoi on court, ils se demandent encore plus pourquoi on prend ce truc-là qui sent cette odeur-là. Mais on a compris que on peut leur faire découvrir des nouvelles saveurs grâce aussi à la spiruline de meilleure qualité. Et c'est intéressant aussi d'en parler, de voir un petit peu comment tout ça s'est produit, etc. Et donc là, tu vois, normalement, là, tous ceux qui ont écouté, je pense, ils ont tous, ils se disent, oh là là, faut que je passe à la spiruline, etc. Mais c'est là où il va falloir que chacun, je pense, trouve sa petite recette pour savoir comment l'incorporer. Parce que c'est pas si facile que ça, moi je trouve, hein, en tout cas. Et c'est là où j'ai envie de lancer un petit défi, tu sais. On va leur lancer un petit défi qui nous envoie sur le compte du podcast, pour compte Instagram, etc., ou par mail, ou ce qu'ils veulent, des petites recettes dans lesquelles ils mettent de la spiruline. Parce que toi, tu as des idées sur ton site, hein, je les ai vues. Mais je pense que on a tous des idées dans lesquelles on peut le mettre. Hein, et je répète, il faut éviter de la cuire.
Oui, tout à fait. C'est ça.
Mais à partir de là, on peut la mettre dans de la mousse au chocolat. Tu as dit que c'était un exhausteur de goût. On pourrait la mettre. Moi, je la mets dans le porridge. Tu parlais des smoothies. C'est un bon truc. On pourrait. Alors, je sais pas si on peut saupoudrer ça sur une petite tarte à pomme ou je sais pas quoi.
Si. Et nous, en Bretagne, tu vois, sur une tartine de pain beurre, hein, pas de souci.
Ouais, c'est vrai. Alors, tu vois, alors ça, et je vais te dire, confidence pour les Bretons, tu vois, comme quoi je suis pas sectaire ni rien. Je me suis mis au beurre salé breton depuis quelques temps sur ma tartine de pain le matin. Et ma fille adore tellement ça qu'on descend les plaquettes à toute allure. Donc, si je peux mettre de la spiruline dessus, et ben, tu vois, c'est une très bonne idée. Et je te remercie pour cette bonne idée parce que comme ça, tu m'as peut-être donné un moyen d'en consommer un petit peu tous les matins. Peut-être. En tout cas, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos parce que moi j'ai appris un nombre de trucs incroyables. J'avais aucune idée de l'ampleur, en fait, de tout ce qu'il y avait dedans, de tout ce que ça représentait, de comment ça se fabriquait et autres. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de dire, si on veut te retrouver, toi, la tienne,
oui.
Où est-ce qu'on te trouve?
Alors donc en fait on a un site internet donc c'est www.spirulinearmor donc spirulinearmor-armor.fr. Bah là actuellement tu tombes bien en plus parce qu'on va faire une on va faire une offre à partir de 2 sachets on va offrir les frais de port. Donc comme ça ce sera comme si vous veniez à la boutique sauf que bon voilà, s'ils écoutent le podcast Bertrand, t'imagines, c'est comme s'ils avaient eu leur petite visite. Et donc bon voilà, on fait ça. On a dit qu'on le ferait avec ma femme, donc j'ai ma femme qui travaille avec moi aussi, Anne, et je la remercie, j'en profite pour la remercier parce que le projet n'aurait pas pu se faire si ma femme n'avait pas été là non plus.
Oui, et c'est vrai, et en plus, moi je trouve que c'est un chouette projet parce que c'est vrai que ça fait partie des cultures qui n'existaient pas, etc., mais je trouve que c'est moi j'aime bien le projet aussi, tu vois, quand tu parles, ouais, de ta reconversion, etc. J'imagine que monter un, alors je te demande pas combien ça coûte, combien de temps t'as mis, mais j'imagine que c'est un projet quand même qui a mis du temps pour maturer.
Ouais, complètement. En fait, dès la première étape, c'est compliqué parce que si tu n'as pas de terrain, pour trouver le terrain, quand tu n'es pas forcément du monde agricole, c'est compliqué. Donc au départ, tu vas voir les mairies, mais t'es pas forcément reçu. Et après, tu te dis, au lieu de chercher un terrain, je viens vous présenter un projet. Et là, ça marche beaucoup mieux. Un projet novateur. Ouais. Et autrement, pour répondre à ta question aussi, on est sur Facebook, bien sûr, et sur Instagram, et pareil. Bah, Spiruline d'Armor, et puis voilà.
Ouais, de toute façon, je mettrai tous les liens
ouais,
pour que les gens comme ça puissent voir un petit peu. Puis ceux qui sont dans le coin, ils auront les coordonnées pour venir vous voir. Hein,
ouais,
parce que vous êtes dans les Côtes d'Armor, bien sûr, comme on l'a compris.
Ouais.
Ma géographie bretonne n'est pas assez bonne pour savoir exactement où est Hénon, hein, donc
ouais,
je ne vais pas m'avancer sur l'endroit précis où c'est, mais les gens qui sont par là-bas le savent, eux.
Oui. Alors bah, tu as des gens qui sont déjà venus dans ton podcast qui savent bien où je suis, ouais.
Bon, en tout cas, Hervé, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Je te le redis, j'ai appris plein de choses. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie aussi pour ton sourire et ta passion parce que on sent que c'est quelque chose qui te passionne aussi de parler de ce produit qui est très méconnu et pourtant que je leur dis, hein, dans l'endurance, tout le monde nous a dit un jour qu'il fallait prendre une petite pastille de spiruline ou un truc comme ça. Et je te remercie beaucoup pour toutes ces informations là.
Ouais,
puis
après c'était un plaisir, Bertrand, et puis tu mets à l'aise les gens, donc il y a pas de souci.
Ouais, bah écoute, c'est mon boulot, moi, tu sais, moi je suis éleveur de, enfin je suis pas éleveur, je
éleveur de champion.
Mon truc c'est juste de poser des questions pour que tous les uns les autres on arrive à progresser, qu'on arrive à apprendre des choses et que tu sais, finalement se dire que prendre de la mauvaise spiruline qui a mauvais goût, etc., on n'est pas obligé de s'infliger ça parce que si en plus elle n'a pas les bonnes qualités, ça sert à rien. Alors autant découvrir le produit, à quoi il sert vraiment, comment on peut vraiment l'utiliser. C'est un produit naturel et c'est pour ça que ça rentre aussi dans la philosophie du podcast, hein, sport et nutrition naturelle, la plus naturelle possible. Et là on est sur un produit qui est très naturel quand il est bien j'ai pas élevé, mais je sais pas trop comment dire,
bien
parce
fait,
que c'est vrai que
bien
c'est
fait, ouais, bien produit quoi,
bien produit,
ouais,
bien cultivé, donc on rentre vraiment là-dedans. Et si en plus tu me dis que c'est un goût qui est alors attends, t'as osé dire l'umami du japonais, hein, la cinquième saveur,
ouais,
quand même,
c'est
hein,
ça, c'est ça, c'est ça,
la
c'est
saveur
ça,
magique, j'ai envie de dire. Là tout d'un coup les gens vont se dire, ils vont regarder leur boîte de spiruline qui est pas bonne, ils vont se dire bon d'accord, peut-être que ça vaut le coup que je creuse un petit peu les choses et on peut se faire du bien. Et je le dis toujours, moi c'est un de mes dictons, manger bien, manger sain, c'est pas manger pas bon, etc., c'est aussi avoir le sourire, etc. Et si la spiruline peut avoir un meilleur goût que ce qu'on a dans la tête des gens tout simplement parce qu'elle est de meilleure qualité, bah écoute, moi je pense qu'on a rempli l'objectif du podcast.
Ouais, j'espère Bertrand. Bon, on a essayé en tout cas.
Bah écoute, on a fait tout ce qu'on a pu pour. Je te remercie en tout cas beaucoup pour toutes ces informations-là. Je te le redis, mais c'était vraiment très intéressant. Et puis nous, eh ben écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, si vous avez une recette préférée avec la spiruline, partagez, faites une story sur Instagram, sur Facebook, sur ce que vous voulez, partagez les photos, envoyez-nous des messages. Moi, j'ai envie de voir les recettes dans lesquelles les gens mettent leur spiruline. Et moi, je le ferai aussi, tu sais, je vais le mettre aussi. Je vais chercher des idées de recettes, etc. Et en partagera tout ça comme ça. Je pense qu'on a moyen de se partager des petites recettes sympas. En tout cas, merci beaucoup Hervé et belle continuation avec la spiruline et tous tes projets. Ciao, ciao.
Merci.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram @podcastsportetnutrition et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.